Bonjour.
Salut
Marina Rollman, ouais. Tanguy Pastureau et notre invité Léa Drucker. Très beau Tanguy Pastureau.
Elle sait tout faire.
Très très beau Tanguy Pastureau.
On a cru que t'avais roté.
Nous allons... Ça c'était pour Daniel Morin.
Pardon.
Voilà, qui a décidé de faire son épilation maillot plus tôt que toutes les autres saisons.
Mais il a raison, mercredi matin il n'y a personne.
C'est pour ça, ça. Et puis ça roule tellement mieux à Paris quand il pleut. On va évoquer tout à l'heure avec Léa Drucker, notre invitée, Le Monde d'hier, un film qui sort aujourd'hui sur la politique, hein, puisqu'elle joue le rôle d'une femme présidente de la République. Une blonde présidente de la République qui s'inquiète de la montée de l'extrême droite. On va en parler avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, passons au blind test et avec tout ce que l'on peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur un blind test avec la politique? Je vous jure, essayez de trouver ça par exemple.
Leïla, Aznavour.
T'as le titre?
Non.
C'est Aznavour.
Mais c'est Aznavour.
Hier encore?
Exactement.
Hier encore.
Le Monde d'hier.
Et voilà. Je me suis dit, je vais me sortir de la politique, je vais m'accrocher à hier encore. Bien joué. Qui chante ça?
Leïla. Trio.
Oui.
Ah oui. J'allais dire Camille.
Ah oui.
Désolé pour hier soir.
J'ai l'impression que ça pourrait être la chanson de ta journée, Morgane.
Pourquoi? Non. Oh non. Oh non. Non. Non, hélas.
Si seulement.
Ça s'est bien passé hier soir, Marina.
L'anniversaire de ma grand-mère, c'était merveilleux.
C'est
les 89 ans de Solange, on la salue.
On l'embrasse.
Solange, ouais,
on
l'embrasse. Bien sûr.
On l'embrasse. Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Oh non. Leïla.
Morgane.
Machouille.
Ah ouais, j'allais partir sur TLC, vous voyez, j'étais comme un sous.
Oh là là. Quel album.
Quel sans faute,
quel artiste. Tu dis quoi?
Quel sans faute.
Oui.
3 points de Leïla.
Pour l'instant,
ça va se gâter,
attends. Marina, une fois
non, il y a une remontada qui est complètement possible.
Une fois que l'artiste se tripotait, tu te touches de partout.
Je cherche une petite barrette parce que j'essaie d'accrocher ces petites méchasses moches là, parce que la radio est aussi un médium visuel, voilà.
Marina.
Vous avez pas une petite barrette
ouais, non, mais...
la dernière barrette, toi, tu l'as finie.
Je vais dans des fois, je vais y arriver.
C'est à qui tu dis ça? À Morgane.
À qui chante ça? Elle est trop girly cette émission. Alicia est venue prêter sa barrette à Marina. Et qui chante ça?
Non, mais une voix.
Vous n'avez pas le droit. La voix, ça va être trop facile.
Ah ouais, c'est pour ça.
On est sur la France.
Archi connu. Il est venu souvent
Gaëtan
ici.
Gaëtan Roussel, Leïla.
Oui, ah, enfin, dans son groupe.
Louis Attac. Bien sûr. C'est le Ting Ting Ting.
Et si c'était hier, Louise attaque, attention. Que du Leïla pour l'instant.
Ouais, c'est une espèce d'hégémonie.
Ouais. Là, ça va être... Oh là, Morgane,
Leïla, Kali.
Non.
C'est un truc du genre.
Non.
Ah bon?
Plus jeune.
Morgane, Raphaël.
Plus Morgane.
Pomme.
Non.
Raphaël.
Non plus. Il chante souvent avec une casquette.
Vianney.
Non, il n'y a pas de casquette.
Je sais pas. Leïla, oui. Christophe Maé.
Non.
Du jour où on s'est rencontrés.
Oui.
J'ai avoué à ta mère.
Ah, mais on connaît plus.
Non.
Convinceur, Leïla.
Oui, oui.
Ah, ah, ça vient de loin.
C'est extraordinaire. C'est vraiment très bon. C'est beau. Je vous regarde.
Bah, c'est tout Leïla. A priori.
Comme un sport auquel tu saurais jouer.
Ah, mais c'est un sans faute de Leïla. Un truc de dingue. Hein.
C'est beaucoup de Morgane.
Oui.
Bonne.
Oui.
Bravo.
Un point.
Pomme, même robe qu'hier.
Ah ouais. Parce qu'il écrit bien aussi. Ma matinée, puisque je n'ai pas eu le temps de me chanter.
Ah, c'est vrai?
C'est vrai, t'as fait le walk of shame?
Non, pas du tout.
Bah non. Après la nuit, enfin,
je suis assez inquiet. Le walk of shame, c'est se balader avec eux. Après l'anniversaire de sa grand-mère. Attention. Il faut que j'enlève des images. C'est parti. Attention, ça rapporte 6 points à la victoire.
J'ai laissé passer hier.
Donc c'est le titre, hier.
J'étais bien hier.
Ulysses?
Non.
Hier, j'ai voulu rester hier. Mais hier,
Morgane, l'impératrice?
Non.
Dominique A.
Non.
Demain me réclame et me promet toujours. Demain, l'incertain. Demain, un autre jour. Demain, je sais bien que
c'est
demain.
Qui je suis
imaginer, envisager.
Alors, c'est pas sa chanson la plus connue.
Demain me projette, demain c'est l'espoir. Demain,
je mais si je vous donne. Je
attends, non, 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 la grande Sophie.
Jolie.
Ah, cette voix.
Jolie.
Demain l'aventure.
C'est une victoire.
C'est complètement
écrasant de Leïla et merci d'accueillir Léa.
Bonjour. La bande originale avec Nagui.
Bienvenue Léa pour nous parler de ce film Le Monde d'hier qui sort aujourd'hui. Un film de Diastème avec Alban Lenoir, Jacques Weber, Thierry Godard, Emma Decaune, Benjamin Biolay, Luna Lou, Frédéric Andreau, Yannick Régnier et j'ai envie de dire surtout votre fidèle conseiller Denis Podalydès dont on a parlé hier, qui est vraiment votre double en tant que présidente de la République. Une présidente qui en a marre, qui veut pas renouveler son mandat.
Non, mais c'est incertain, cette soi-disant non-envie de renouveler son mandat. Elle est quand
en
même...
tout cas, elle se présente pas.
Elle dit qu'elle veut pas se présenter, mais bon.
Attendez,
On a trois semaines du premier tour.
C'est impossible de se présenter.
Elle n'a pas déposé sa candidature.
Mais Léa, faut voir le film, il est génial.
Non, je vous ai tout rattrapé au montage. C'était pas du tout cette histoire à la base. C'est un astéroïde qui menace la Terre.
Contrairement à ce qu'on croit, on se présente pas comme ça du jour pour le lendemain, quoi.
Non, elle a des enjeux personnels qui font que il y a une énorme incertitude là-dessus et que elle, dans le fond, elle le souhaite pas, mais voilà, il y a des événements qui font que... Voilà,
c'est ça. Alors, ces événements...
Ça peut bouger.
De ce que je me souviens de la bande-annonce, de ce que l'on peut dire, surtout, sans spoiler, parce que c'est un thriller politique qui est assez proche d'une actualité brûlante, déjà parce qu'il y a élection présidentielle, parce que montée de l'extrême droite, et puis parce que communication bad buzz, par vidéo et menace d'une vidéo qui viendrait foutre en l'air le candidat potentiellement favori qui viendrait vous remplacer.
Le candidat républicain.
Oui.
Face à celui d'extrême droite.
Voilà, c'est important.
Bah oui, c'est un thriller qui met en scène une histoire de grande fragilité au plus haut poste du pouvoir. C'est-à-dire que c'est ça que montre aussi le film. C'est l'exercice. C'est plutôt un film aussi sur l'exercice de l'État, la difficulté de ça.
La solitude.
Et la solitude. Ouais. Mais raconté de façon très assez humaine. Enfin, plutôt dans quelque chose d'assez organique. En fait, le film est assez c'est aussi un conte, un peu quelque chose d'assez romanesque, mais quand même assez réaliste sur ce que ça doit être, en tout cas ce qu'on peut imaginer de cette incertitude des trois derniers jours du pouvoir, et quand on est face à ces échecs aussi, et quand on est face à des enjeux personnels qu'on ne peut pas mettre en avant, qu'on ne peut pas raconter publiquement.
Et puis la menace venant de l'étranger, c'est une menace qui vient, alors c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que j'imagine que le film a été écrit il y a quelques années.
Il y a deux ans et demi.
Qui a été tourné il y a deux ans, c'est ça? Et la menace...
Non, tourné récemment.
Ah bon, pardon.
Il y a un an, pardon, ça a été tourné janvier 2021, mais ça a été écrit il y a deux ans et demi.
Oui, mais tourné en janvier. En janvier.
C'était déjà pas la même chose qu'aujourd'hui.
Clairement, d'autant que la menace vient de Russie.
Ouais, alors ça, moi je sais pas comment... Alors, je pense que Diastème...
Certains diront, elle est toujours venue de Russie, et puis même aux précédentes élections, il y avait déjà des...
Les élections américaines
des
aussi.
Des sous-entendus
de... Il était pas giga sympa il y a un an, Vlad. Il a pas fait un 180.
Non, ouais, il a pas vrillé en deux.
Non, mais c'est vrai que... C'est Diastème,
En politique, il y avait déjà des rumeurs d'influence justement sur les élections américaines, sur le Brexit, sur la montée de l'extrême droite en France. Ce cas de figure-là, en tout cas, a dû sonner aux oreilles de Diastème.
Oui, c'était très troublant. Hein. Mais c'est vrai, les auteurs et les scénaristes, ils écrivent avec, ils utilisent des outils de choses qui nous arrivent. C'est quand même, ça vient pas de nulle part, c'est pas complètement inventé. Et en effet, déjà, il y a deux ans et demi, il y avait des choses qu'on voit dans le film
qui existait dans le parcours narratif du film. Il y a plein d'éléments qu'on a connus, mais sauf que c'est pas ces personnages-là, c'est pas forcément une femme, c'est un homme. Enfin, il y a plein de...
Alors c'est ce que j'allais dire, cette femme...
On utilise la réalité pour faire du roman.
Exactement,
hein.
Mais très proche de la réalité, c'est ce qui donne un peu la chair de poule.
Ouais.
Cette femme et la solitude du pouvoir, elle est... Alors je ne sais pas si c'est un regard ou une analyse aussi sur la fragilité du pouvoir, plus la fragilité d'être une femme seule au pouvoir. Elle n'a pas de premier homme, je ne sais pas comment on appelle
oui,
ça.
Oui, elle n'a pas de compagnon, mais elle en a eu un, elle est mère, et elle a l'air très très heureuse comme ça, non ?
Heureuse, je ne sais pas si elle
oui,
est heureuse.
Ça, pardon, ça renvoie à l'image d'une candidate actuelle, justement.
Mais on a eu des candidats seuls aussi. On a eu des présidents seuls.
Ah bon ?
Bah, on a eu Nicolas Sarkozy qui a été quand même seul. Alors,
ah non,
il n'était pas seul,
il était chargé. Il en avait une en arrivant, une en partant.
Oui, mais bon, en tout cas, voilà, c'était pas une stabilité de couple installée. On a eu quand même François Hollande aussi.
Avec un sidecar, mais.
Voilà. Il n'était pas dans une situation.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, on sait qu'ils étaient seuls aussi, mais à l'époque, sur les photos, il fallait toujours être accompagné de quelqu'un, comme pour rassurer cette image d'Épinal.
Exactement. Oui, mais. Moi, ce que je me suis demandé, c'est justement qui est cette femme française qui a réussi à se hisser là, puisque jusqu'ici, on n'en a pas eu des présidentes, et que c'est une femme qui a évidemment évolué et surmonté des obstacles dans un monde qui est masculin. Elle n'a pas 25 ans. Hein, ouais.
C'est ce que lui dit Denis Podalydès, d'ailleurs. Il dit que c'est finalement ce binôme-là qui a fait la réussite. C'est cette rencontre formidable entre eux deux,
oui.
Où lui l'a soutenue, épaulée, conseillée pour...
C'est sûr que c'est une relation complètement dépendante. Ils sont complètement dépendants l'un de l'autre.
J'ai même du mal à définir, moi, cette relation.
Mais c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien quand on définit pas trop, parce que je trouve que la vie est comme ça. Des fois, on a des relations, c'est difficile à expliquer.
Ouais.
Et eux, c'est ça, Denis Podalydès, le secrétaire général et la présidente. Moi, j'ai complètement imaginé les études ensemble, les rêves ensemble, les illusions, l'ambition, la performance aussi, la performance qu'il faut pour pouvoir arriver là.
Ouais.
L'admiration réciproque qu'ils ont dû avoir. C'est une relation amoureuse, amicale, on ne sait pas trop, mais c'est surtout qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Et c'est une relation qui est devenue malade. C'est une relation qui est devenue souffreteuse.
Elle est maman, tu l'as dit, Leïla. Là aussi, il faut gérer la vie privée et la vie publique.
Ou assumer le fait de ne pas la gérer.
Voilà. Ou aussi se retirer de la vie publique pour mieux gérer sa vie personnelle.
Oui.
Toutes ces questions-là sont posées dans ce film. Pourquoi le monde d'hier ? Parce que je me posais la question sur l'enjeu...
L'ancien monde.
L'enjeu, le monde d'hier, t'as l'impression que c'est le truc ringard. Et en même temps, on a l'impression qu'au contraire, c'est très actuel, voire futuriste.
Bah alors, moi je donne mon interprétation, parce que je pense que chacun peut avoir son interprétation.
J'imagine que vous avez parlé avec Yastem, non ?
Un tout petit peu, légèrement. Mais le monde d'hier, d'abord, c'est une référence à Stefan Zweig, qui est son livre, je crois que c'est son dernier livre avant qu'il se suicide, enfin bon, qui est un livre magnifique. Et Le Monde d'hier, donc c'est un hommage. D'ailleurs, il y a la phrase de fin du film qui est une citation de Zweig.
Ouais.
Et qui est une référence à un monde où on a rêvé, où on a eu des idées. C'est les illusions perdues aussi. C'est le monde dans lequel on était, où on croyait en la politique. Et dans ce film, ces personnages-là sont désenchantés. C'est l'histoire d'un désenchantement politique. Donc c'est ça, c'est le monde d'hier. Moi, c'est ce que je me suis raconté. C'est quand on rêvait de pouvoir changer les choses, quand on pensait qu'on allait y arriver. Et puis aujourd'hui, on se retrouve face à une sorte de un univers assez pas apocalyptique mais quand même très pessimiste. C'est très pessimiste.
La citation de Stefan Zweig à la fin du film: mais toute ombre après tout est fille de la lumière, et seul celui qui a éprouvé la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu.
Ben voilà.
Ça calme.
Quand vous parlez du désenchantement,
c'est pas de moi.
Quand vous parlez de la politique et du désenchantement, on a l'impression dans le film que c'est inhérent à la fonction, que il a fallu s'asseoir sur des choses, il a fallu accepter, faire des compromis pour en arriver à se dire qu'on on gouverne avec parce que ce qui oppose vos deux personnages avec Denis Podalydès, c'est cette envie d'intervenir pour favoriser le bien commun. Je ne sais pas comment le dire pour pas raconter le film.
Non, mais c'est une question morale, en fait. C'est une question auxquelles, d'ailleurs, le film ne répond
éthique.
Pas.
Ouais, ouais.
C'est une question, et c'est en ça, c'est là où le roman commence, et c'est là où la fiction commence, et qu'elle est intéressante pour nous, acteurs, et pour les autres, pour Diastème, et pour ceux qui ont écrit ce film avec lui. C'est que tout d'un coup, on pose, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exposer, c'est de montrer des dilemmes humains, des dilemmes qui font que
des
personnages sont tiraillés.
C'est
dans la tragédie, c'est dans la tragédie classique. Ouais. Podalydès, le premier jour de répétition, m'a dit, ça me fait penser, à une tragédie de Racine. Et en fait, c'est vrai que on peut se poser la question, moi je connais pas la politique, je m'en suis pas du tout approchée, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à ce niveau-là de pouvoir, est-ce que ces enjeux-là sont pas un peu universels et n'ont pas toujours existé, les enjeux de
et puis y a
comment
une...
garder le pouvoir, voilà. Comment se maintenir là,
comment ne pas mettre en péril la République.
Ouais, c'est ça. Parce et que puis là, c'est... les oui et puis les failles, ils ont des failles, c'est ça qui est intéressant de montrer dans un film.
Toutes les questions aussi sur le pouvoir sont posées entre l'intérêt personnel et l'intérêt du pays ou de la République, et de savoir aussi jusqu'où peut-on aller en fonction de ses convictions ou de ce que l'on pense être l'intérêt.
Est-ce qu'on est encore en démocratie quand on veut barrer le chemin à une formation politique existante et reconnue?
Ça, c'est des questions tragiques et intéressantes pour faire un film. En fait.
C'est ça. La démocratie veut que l'extrême droite peut être élue, et si l'extrême droite est élue, on dit c'est plus une démocratie.
C'est ça. C'est la vraie problématique de est-ce qu'on donne la parole à tout le monde ou pas. Bah si, vraisemblablement.
Ah bah, la démocratie, c'est ça. On donne la parole à tout le monde.
Sauf qu'on prend le risque en donnant la parole à tout le monde que certaines idées soient érigées au plus haut niveau de l'État.
Voilà. Donc ça, c'est les questions que le film
pose. Passionnant. C'est passionnant. Ça s'appelle Le Monde d'hier. C'est aujourd'hui au cinéma. Léa Drucker est notre invitée. On est ravis que vous soyez là. Moi, je suis ravi d'être dans une émission aussi féminine, réalisée par Alicia, avec Marina, Leïla, Morgane, Léa. Je me demande ce que je fous là. Et Pauline réalise la technique aussi.
On te garde pour les quotas.
C'est gentil. Quotas arabes.
De l'âge aussi.
On est sur plein de discriminations.
Ah bah, tu coches toutes les cases. Hein, c'est
c'est un diagramme de Venn.
Je serai France Inter, je te garderai.
Dis-le leur alors. Voici Morgane qui a dit non, elle ne vous aime pas, Léa. Elle ne vous aime pas du tout. Et pourquoi ne pas aimer Léa Drucker?
Léa, dans Le Monde d'hier, vous êtes présidente de la République, une femme présidente en France. Donc c'est rigolo, hein, depuis la guerre des mondes, vous lâchez pas la science-fiction. Et espérons, moi j'espère au moins à 20% que ça reste vraiment de la science-fiction. En pleine campagne présidentielle, étant donné qu'on va aller voter dans quelques jours, enfin, aller voter, c'est pas le mot, on va aller consentir, ça serait plus exact. Les gens vont tellement aller aux urnes à reculons cette année que vu de l'espace, je pense que le 10 avril, ça ressemblera à un lip-dub de moonwalk géant. C'est comme aller à un match de foot dont tu supportes aucune une équipe et dont le score était inscrit sur le ticket depuis le début. Le gardien de but de l'équipe adverse est aussi l'arbitre, et quand tu vas à la buvette, il n'y a que de la merde à la carte. Et pourtant, franchement, c'est un job respectable, président de la REP. Moi, je me suis demandé par quoi par quoi je commencerais si j'étais présidente. C'est pas si facile, franchement. Une fois que j'ai foutu Leïla à la culture, on fait quoi? Et j'avoue, j'ouvre un petit ministère pour Rollman, parce que tout le monde a envie de voir cette femme en tailleur à une heure de grande écoute. Tu le vois, ma grande, le ministère de la Scarmozza, il est pour toi. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même un immense bordel d'être président, tu vois, c'est comment tu ranges, tu commences par quoi? Tu peux pas juste appliquer la méthode Marie Kondo à la France. Éric Zemmour essaye de le faire et c'est pas ouf, hein. Et est-ce que cette personne issue de l'immigration sénégalaise m'apporte de la joie? Non, allez. Et au cours de cette présidentielle, ce qui intéresse le plus les Français selon les sondages, les amis, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et je crois qu'en tant que chef de l'État, ma réponse principale serait, ça fait un peu résigné, je crois que je jouerais comme Macron, mais Macron sans le filtre, franchement, autant y aller pleine balle, mais prix 3000. Jupiter pure race. Face aux ménages qu'on a du mal à boucler les fins de mois. Prise de parole pour mettre les choses au clair. Bon, les gars, en vrai, vous vous plaignez de manger des pâtes tous les mois. Mais avec un album de pop minalaise des années 70, une sauce à l'ail un peu travaillée à feu moyen, c'est la côte amalfitaine à Créteil, hein, les amis. Donc, à un moment, si vous n'avez pas envie, il faut vous demander au fond quelle est votre vraie pensée limitante et peut-être se tourner du côté de votre schéma zodiacal. Parce que, est-ce que ça ne serait pas un peu intéressant, un président un peu astrologue, un peu pétasse, amender une loi sur l'âge des retraites la veille d'un changement de lune? Je crois pas. Et la deuxième préoccupation des Français cette année, c'est le système de santé. Ouais, bon, allez, on a fermé des lits. Déjà, n'importe quel prof de français vous dirait que ça veut rien dire fermer des lits. C'est comme ouvrir la lumière, donc calmons-nous un peu avec cette histoire d'hôpital en danger. De toute façon, ma voyante m'a dit seulement une pandémie par siècle. Après, elle est espagnole et nutritionniste, donc c'était peut-être seulement un pandémie au seigle, je sais pas. Et on saura dans 10 ans au dîner. Voilà. Soit la moitié de l'Europe chope la lèpre, soit je suis constipée tout le reste de la semaine. Ça va. On va être sur une surprise. Hein. Donc, troisième et dernière préoccupation des Français, l'environnement, sujet auquel, en tant que présidente et comme tous les candidats de cette année, je répondrai Ah pardon, on est filmé. Ah oui, la planète, émission, pas bien, paille, tortue, panda, fond marin, air grave, fond marin à nouveau. Et le sujet qui agite les débats télé dans tous les sens et qui revient sans cesse, à savoir la défense de la République et de la laïcité, n'arrive que bon dernier avec un tout petit 10%. C'est fou, au fond, tout le monde s'en fout et tous les candidats en parlent. Moi, présidente, il n'y a plus de signe de croyance, il n'y a plus de croix, il n'y a plus de voile. Moi, je serais une présidente fatiguée d'avance. Donc c'est cagoule pour tout le monde. Comme ça, je vois plus vos gueules et terminé, fin de l'histoire. Finalement, franchement, c'est pas dur de gouverner un pays quand on y met un peu d'issien. Bonne émission du coup, mais pas de CO2 parce que c'est pas bien.
Merci Morgane présidente en Vénus rétrograde.
Pardon, au ciel.
Ça j'adore. Une bande d'émis au ciel. J'adore.
Vous pouvez faire tous les jours.
Est-ce que la politique, c'est un sujet délicat au cinéma? On a des films comme ceux de Costa Gavras, c'est-à-dire que s'intéresser au pouvoir, aux dictatures, à la manipulation, aux arcanes du pouvoir, aux secrets, avec des pièces cachées, avec le code nucléaire. Enfin, on a toutes ces images-là de films américains aussi, les hommes du président et ainsi de suite. On se dit, on s'en fait tout un monde. Est-ce qu'il y a une documentation étayée? Est-ce que Diastème, comme vous d'ailleurs, avez essayé d'être au plus près de la réalité, en tournant peut-être à l'Élysée ou pas d'ailleurs?
Ah non, pas du tout. On a le droit peut-être, je sais pas, mais en tout cas nous on n'a pas pu tourner là-bas.
Ça a l'air de ressembler en tout cas, ces genres de
grandes... Ah ouais, c'est bien. Hein, Non, on a tourné dans un Rambouillet, dans un château, oui. Et à la mairie de Rennes. Et ça
incroyable,
marche, ça c'est magique d'ailleurs. Et puis qu'est-ce que j'allais dire d'intelligent déjà?
Non, sur les arcanes du pouvoir,
les films politiques,
et sur ce que ça révèle.
La documentation,
elle s'est faite. Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'imagination, hein, bien sûr. Mais il a écrit le scénario aussi avec Christophe Honoré et Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui sont venus comme conseillers.
Fabrice Lhomme sera là tout à l'heure. Oui.
Qui eux ont apporté le plus de crédibilité possible à environnement que Diastème voulait décrire et aux enjeux et à la stratégie politique et aux états dans lesquels ils peuvent être, aux états psychologiques dans lesquels ils peuvent être. Je pense que eux ils connaissent très bien. Après nous c'est aussi de l'interprétation.
Alors
ce
oui,
qu'on peut imaginer.
Non mais le jeu, et vous êtes formidable en président de la République, hein, je vous le
merci
dis.
Merci beaucoup.
Hein.
Autorité naturelle, c'est vraiment c'est fou. Non mais vraiment vous installez là, vous êtes présidente quoi.
Bah merci. J'ai travaillé dur, je veux dire.
Vous avez longtemps travaillé dur. Ça marche quoi?
Ouais. Je dis, est-ce que ça marche dans l'intime? Est-ce qu'après on arrive à avoir cette posture, cette prestance, voilà, dans des situations à autres?
Oui, non, je suis arrivée chez moi comme ça, mais on m'a vite calmée. On m'a vite à la maison.
Non, mais il y a une manière de sortir d'une voiture, de serrer les mains de personnalités qui attendent sur le parvis d'un aérodrome. Enfin, il y a des gestes, il y a des réflexes comme ça dans le comportement d'une présidente.
Alors oui, il y a une attitude. Enfin, moi, j'ai ressenti ça.
C'est le port de tête.
Un peu, une certaine rigidité, une façon de marcher et d'y croire soi-même en fait. C'est-à-dire que, bon, moi dans la vie je me tiens pas toujours bien, j'ai plutôt envie de m'amuser, de rigoler, tu vois. Et là il y a quelque chose, il y avait un enjeu pour moi, un défi de quelque chose, d'autoritaire, mais sans faire sans lever la voix ou sans. Mais ça tient au costume aussi, ouais. Et à une attitude vis-à-vis, au regard sur les gens, un truc de bon, bah j'y suis là, si je suis là c'est que. J'ai fait ce parcours pour y arriver.
Puis vous avez Elisabeth de Rincy, donc on a déjà une femme qui est pas.
Puis Elisabeth.
Qui est pas dans la rue, quoi.
Oui, puis qui a une grande maîtrise, je pense, du débat. C'est des personnalités qui n'ont pas peur du combat, qui n'ont pas peur des débats et de se confronter.
Et votre remarque sur le niveau de la voix, j'ai remarqué ça et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et d'ailleurs, je me suis posé la question comme ça autour de nous, dans les présidentes de nos chaînes respectives. Ou dans l'autorité, celle qui élève la voix ou celle qui parle comme ça très calmement. Et c'est vrai que l'autorité s'affirme par une voix extrêmement calme. Pas la peine de s'énerver parce que ça montre une espèce d'assurance.
Une maîtrise.
C'est ça.
Et ça, la maîtrise, c'est très très difficile.
Vous l'avez super bien trouvé dans le personnage. Parce que quelle que soit la situation.
Soi, quoi, je veux dire, voilà, c'est ça, une maîtrise de soi.
Parce qu'une femme qui parle aiguë et fort, elle est hystérique. En plus, on le sait, c'est le truc que les machos nous renvoient sans cesse. Donc d'autant plus.
Hystérique, déjà, étymologiquement, c'est utérus.
C'est utérus, oui. Ouais.
ça. Mais c'est pour ça que la voix posée comme ça, elle en impose finalement davantage.
Oui, oui. Et puis ça la rend pas forcément d'ailleurs sympathique. Hein, c'est pas du tout. Je me suis pas dit faut qu'elle soit chaleureuse et tout ça. Pas du tout. Je pense qu'il fallait assumer justement une certaine froideur et une certaine pas essayer d'en faire un personnage qu'on va aimer. Mais c'est autre chose que je trouvais intéressant dans ce personnage. C'était au contraire le comment ça déraille pour elle en fait. Comment tu fais quand ça va pas bien quoi.
Elle n'est entourée que d'hommes qui la conseillent et surtout Podalydès qui semble être une espèce de Gepetto qui manipule son pantin. Non mais c'est vrai, on a l'impression
qui est très brillant. C'est lui, c'est un personnage à la fois, et l'acteur et Denis. Non mais
il y a une scène où vous êtes face à face tous les deux et que vous en venez aux larmes et pas aux armes, qui est bouleversante dans le jeu parce que on aimerait, pardon, je ne fais aucun reproche à la réalisation, on aimerait simplement voir les deux visages en permanence. C'est-à-dire que s'attacher aussi bien à celui ou celle qui parle que à celui ou celle qui reçoit les phrases tellement fortes émotionnellement dans une histoire d'amitié sans limite.
Oui, et c'est ça qui m'a... J'ai beaucoup aimé faire cette séquence. Enfin, il y en a plein que j'ai adoré faire ce film, mais cette séquence, elle m'a particulièrement marquée parce qu'elle raconte autre chose que deux grandes têtes politiques, deux personnes qui sont dans une très grande maîtrise de tout ça, mais c'est les amis qu'ils sont et qu'ils ont été.
Les êtres humains, ça ramène tout à un niveau humain.
C'est les étudiants. C'est quand moi, quand je voyais Denis, je me disais voilà, on a eu 20 ans ensemble et aujourd'hui on en est là. Et ça, c'est un drame universel. Oui. Et ça me touchait énormément, ça me touchait beaucoup. Ce truc de qu'est-ce qu'on est devenu. C'est un film, on est presque en costume en permanence, mais en fait, on était des gamins qui rêvaient de quelque chose. Et ça, c'est beau, c'est ça qui m'a...
Tu veux dire, Léla ?
Oui, c'est ce pacte qu'ils ont passé, on sent qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'intime, en tout cas. C'est vrai qu'on peut pas le définir. On peut pas le définir. Est-ce que la confiance mutuelle qu'ils se sont accordés au fil des années, elle est indispensable à leur exercice de l'État, pour le coup.
Et fragile en même temps.
Et hyper fragile. Ouais. Et elle peut chavirer en deux secondes.
Oui, absolument. Qu'on peut dire. Puis on sait pas s'ils peuvent vivre l'un sans l'autre. Ils ne se supportent plus. Enfin,
on ne peut rien dire. C'est un thriller, c'est une tragédie. On va rien divulgâcher.
Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
Et puis ça ramène aussi cette notion qui est c'est pas une découverte, mais ce sont des êtres humains. Alors oui, ils ont un pouvoir, oui, ils sont à la tête de tout un pays, mais ils restent humains, j'allais dire, avec leurs doutes, avec leur fragilité, avec leur solitude. Cette image de vous voir aussi déambuler dans des couloirs à peine éclairés, d'un palais presque hanté, totalement vide et perdu, on se dit, mais comment peut-on être à la tête d'un pays et aussi seul et aussi perdu?
Oui, moi ça me paraît plausible en fait. Je me dis bon, une fois qu'on a, c'est toujours le masque entre le masque public et puis ce qu'on est dans le public et ce qu'on est dans le privé. Enfin, c'est ça reste des personnages. Ben, j'imagine des gens très.
Oui, il y a pas que des bains de foule dans leur vie, quoi. Et encore moins dans le couloir le soir.
Puis on est un peu, elle est un peu perdue cette femme là-dedans. Elle est un peu perdue dans ce château, comme un vieux château hanté. C'est ça qui raconte aussi le désarroi et qui fait que c'est un film noir avec des codes assez classiques et que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose d'un peu expressionniste. On dirait un peu un truc de Cocteau, ça évoque un peu des films. Et c'est beau ça, que Diastème se permette dans un film politique quelque chose d'un peu légèrement onirique qui fait que c'est du cinéma.
C'est vrai qu'il y a un truc de La Belle et la Bête en fait. Quand vous parlez tout d'un coup de Cocteau, je vous revois dans votre nuisette satinée dehors.
Arrête.
Non mais c'est vrai, il y a un truc. Non mais il y a un truc. Vous savez que dans La Belle et la Bête,
je suis fragile.
Dans La Belle et la Bête, quand elle part en courant comme ça,
c'est un de mes films préférés. Donc
et en fait, quand je vous revois apparaître dans ce jardin, dans les moments où cette présidente va fumer, où elle sort, où on sent qu'elle a besoin d'exister autrement, elle a une autre tenue. Elle se présente différemment, elle est vue autrement par les gardes, par tout le monde. Il y a quelque chose de la transformation, comme dans La Belle et la Bête.
Oui, c'est un rêve ou un cauchemar.
Un cauchemar.
C'est une tragédie, mais c'est surtout un thriller, très contemporain, parce que là, on peut plus d'actualité. Le monde d'hier de Diastème, avec Léa Drucker qui est notre invitée jusqu'à 12h30. Ce film sort aujourd'hui et Fabrice Lhomme, qui a aidé, qui a cautionné, qui a conseillé, en tout cas sur le film, sera, et qui est journaliste au Monde, sera notre invité dans quelques instants. Mesdames, d'abord, le plaisir du jour.
Bonjour les amis, je suis sur hyper excitée. Ça y est, c'est la course à l'élection présidentielle française et c'est ma première avec vous. En habitant ici, je vis ça de l'intérieur.
C'est fou, tout de même.
Cette idée que vous vous infligez ça sans broncher tous les 5 ans, immuablement, alors que tout le monde trouve ça absurde. Les électeurs, les abstentionnistes, les journalistes, les politiciens, tout le monde s'en plaint, mais tout le monde y va. C'est les Césars, mais avec des gens moins bien sapés. Donc là, on a à peu près tous nos coureurs qui vont pendant encore quelques semaines nous régaler sur des plateaux télé et radio avec leur plus grand tube, le classique « Je ne vous permets pas, madame, je vous ai laissé finir, je vous prierai de faire de même ». Jamais de l'histoire, personne n'a été aussi agressif en vous voyant quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment, tu vas bien te calmer, frérot. Non, toi, tu parles pas quand tu me regardes, mais des politiciens. Voilà. Sinon, il y a de toujours très apprécié, mais c'est vous, monsieur, et les gens comme vous qui font que les chômeurs ont les pieds plats, on s'en fout. Alors, ça, c'est un peu le j'accuse du 21e siècle, sauf que généralement, c'est sorti par quelqu'un dont les comptes de campagne précédents sont toujours sous enquête, qui a 2-3 affaires d'emploi fictif au cul et qui touche un salaire du Parlement européen ou de l'Assemblée en venant tous les 3 mois se poser dans son siège, le temps de faire un sudoku pour repartir direct après, se taper en note de frais une formule vol au vent dessert. Et enfin, l'indémodable, mon préféré. Mais je vais vous le dire, moi, je vais vous le dire, ce que veut la France, madame, ce que veut la France, c'est... Et alors, c'est magnifique pour moi, parce que ça n'existe pas chez moi, en Suisse. Nous, on a bien compris que l'élection directe, c'est mort. Les gens sont des cons, ont mauvais goût et sont incultes, moi comprise. Donc, en Suisse, nos ministres, et parmi elles et eux, la présidente ou le président qui en émerge chaque année, sont élus par l'Assemblée fédérale. Et dans ce Conseil des ministres, toutes les régions du pays et les tendances politiques principales sont représentées via une formule qui bouge assez peu et qui doit assurer la bonne marche du pays sous une forme de gouvernance collégiale. En gros, ça veut dire ça bouge très lentement, parce que des gens qui sont pas du même bord politique doivent se mettre d'accord. En revanche, quand tu es citoyen, qui que tu sois, a priori, t'as toujours un cheval dans la course. Mmh. Et donc, c'est un bel exemple. Plein de gens pas d'accord qui se mettent ensemble pour bosser à trouver des solutions. En tant que citoyen, on voit ça et c'est comme une sublimation, une catharsis de nos désaccords. On se dit, s'ils cohabitent, nous le pouvons aussi. Surtout qu'une seule personne à la tête, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la même musique tous les 5 ans en France. La moitié du peuple est déjà fâchée au résultat de l'élection. L'autre moitié, comme c'est la France et que vous vous faites jamais d'illusions très longtemps, rejoint la première moitié dans sa désillusion 3 mois plus tard. Vous êtes tous frustrés pendant 5 ans et on remet ça! Et donc, l'intérêt du modèle collégial, c'est d'éviter cette frustration de l'élection d'une personne clé. Mais alors, le problème avec le modèle collégial, c'est que ça évite aussi aux ministres et éventuels présidents en Suisse de devoir faire campagne auprès du grand public. Ce qui fait qu'en Suisse, on a des trous noirs de charisme aux plus hautes fonctions, les amis. Mais ça ferait faire des descentes d'organes à tous vos petits poulains de Sciences Po, là, qui sont conseillers com, images, auteurs de discours, arrangeurs de mèches. Ah non, on s'emmerde pas à se faire refaire les chicots pour aller jouer les docteurs Martin Luther King Jr. de Lidl en agitant des drapeaux dans des zéniths pour devenir présidente. Alors, rapido, petit topo. En ce moment, au Conseil fédéral, nous, on a à l'économie Guy Parmelin. C'est un mec qui est vigneron, qui parle 3 langues approximativement, y compris sa langue maternelle. C'est genre Casimir, si sur l'île aux enfants, on était en permanence à 0,5 grammes. Vraiment. Ensuite, le président en ce moment, c'est Ignacio Cassis. Alors, après, à part avoir un nom de famille de fruits, qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant, Ignacio? Quand il était à l'armée, il a fait son service en tant que trompette militaire. Voilà, c'est super. C'est Vlad qui se pisse dessus, je peux vous dire. Au moindre écart, ça part en solo de Miles Davis à Kiev, ça va chier les bulles. Et enfin, je vous en épargne 4 autres pour arriver à ma préférée. C'est facile, je suis désolée, mais le monde doit savoir. Notre conseillère fédérale à la tête de la défense, la protection de la population et des sports. Déjà, ça dit beaucoup qu'on mette défense, protection et sport ensemble dans le même ministère, surtout dans cet ordre. Au moins, ils nous mentent pas. C'est-à-dire que clairement, la stratégie de guerre du gouvernement suisse pour ses citoyens, c'est ok. En premier, on essaye de vous défendre. Franchement, on essaye. Après, au pire, on vous protège. On vous fout dans des petits abris à la cool et tout. Et ensuite, si c'est la merde, franchement, sport. Franchement, courir. On est vraiment désolé pour les asthmatiques, mais on n'a pas d'autre solution. Et donc, la ministre à la tête de tout ça, comment elle s'appelle? Viola Amerde.
Non.
Son prénom c'est Viola, son nom de famille c'est Amerde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Tout est marrant, les noms, les métiers, les looks, tout. On ne peut pas se prendre au sérieux et je vous jure, ça détend tout le monde chez moi. Mais la vraie raison pour laquelle je crois qu'il faut changer de système en France, la raison pour laquelle il faut arrêter de chercher la personne providentielle, unique, directe, aimée d'un peuple et portée au nu, c'est parce que c'est fini la monarchie, putain. Réveillez-vous la France, vous voulez pas voir le bordel, mais c'est fini, votre ex ne reviendra pas. Personne choisi par Dieu ne va venir vous sauver. C'est quand même fou pour des gens qui se targuent d'avoir buté leur roi, d'avoir, de votre propre chef, réinstauré des règles où tout le monde participe à reproduire le modèle monarchique. Fonction régalienne, c'est dans les mots. C'est quoi l'étymologie de régalien? Un vrai régal, c'est de tarte au quetch. Pas du tout. Régal, ça vient de rex regis, le roi. Pour décrire le propre de l'État, vous utilisez un adjectif dérivé du mot roi. C'est psychanalytique, putain. Et il vit où le chef des fonctions régaliennes? Au palais de l'Élysée. Non mais vous entendez parler ou quoi? C'est lapsus sur lapsus sur lapsus. En fait, c'est votre kink, la monarchie. Votre surmoi, c'est le progrès qui vous empêche de vivre pleinement votre fantasme. Je suis sûre, dans l'isoloir, il y a des gens, ils font des petits bisous à leur bulletin et murmurent « Pour vous, mon roi !» en le glissant dans l'urne. Mais les gars, ça vous dit, on fait comme tous les pays civilisés d'Europe de l'Ouest et on passe à un truc un peu plus dilué, à la cool, tu vois. Gouvernance collégiale, élection indirecte, on fait redescendre le rôle du président parmi les mortels. Enfin, on passe à la démocratie, en fait. Et en passant, on arrête avec le faste absurde, s'il vous plaît, les débauches de moyens pour le style. Le gouvernement français, c'est plus possible. Je sais que votre histoire, c'est Versailles et LVMH, mais bordel, l'État peut pas continuer à se rouler là-dedans à notre époque. Tout le monde était plié en quatre à l'époque quand Kadhafi il faisait des parades d'éléphants et que Trump il avait des toilettes en or. On était là, oh là là, les ploucs. Mais les amis, vous êtes à deux doigts de faire des courses de pan sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Juste la nuit à Paris, tu regardes les lustres allumés dans l'hôtel de ville, c'est la consommation énergétique d'Andorre. Les mecs, vous êtes des Kadhafi en puissance avec les droits de l'homme en plus et une autre DA, mais pour ce qui est des démonstrations de richesse, de la débauche de moyens et tout, je vous jure, vous êtes zinzin. On dirait que c'est Baz Luhrmann qui s'occupe du protocole. Laissez-moi donc vous convier au Palais Bourbon sur nos récamiers empires et qu'on nous serve des pitiviers aux trois pigeons. Mais qu'est-ce que vous foutez enfin? Pour qui? Pourquoi? Et à nouveau, à quoi ça servait de décapiter Loulou, Marie-Toinette et les autres si c'est pour jouer à la dinette dans leur meuble deux siècles plus tard? On disait que tu étais la chef des fonctions régaliennes et moi j'étais la garde des sceaux et on se voyait au palais. Mais putain! Ou alors, et je vous finirai là-dessus, ou alors on assume. On aime vraiment la monarchie et on est en cohérence avec le projet. On fait des élections tous les 30 ans et le deuxième tour, il se fait à cheval, en mode joute. Les deux candidats, ils galopent l'un vers l'autre dans une arène avec une lance à la main. Là, tu verrais tout de suite les vrais candidats convaincus. Tu vois, Pécresse lancée à 25 km/h sur un poney en Côte de Maille contre Zemmour avec un homme qui crie « Pour Corinne !» Là, je dis oui. Allez, vive la France, vive la démocratie. En attendant de changer de régime, allez quand même voter, les amis.
Wow. Merci, bravo.
Merci, déjà.
Je pourrais l'avoir pour mes souvenirs personnels.
Bien sûr, évidemment.
J'adore. Je vous finirai avec ça.
Ça dérape, c'est le manque de sommeil.
J'adore.
Vive Solange.
Et tellement bien analysé, tellement bien vu. La politique, voilà. On peut l'avoir comme pour en rire, comme pour une tragédie ou un thriller. Je rajouterais quand même un thriller au terme de tragédie, parce qu'on peut avoir le sentiment, en disant que ce film est une tragédie, de quelque chose d'un peu, d'abord, sans tempo, lugubre, et avec des codes un peu vieillots. Là, au contraire, c'est très dépoussiéré, très moderne. Et ce thriller joue. Et j'ai pas assez parlé d'ailleurs de la fille, enfin de votre fille dans le film.
Luna Lou.
Voilà.
Qui est magnifique.
Parce que.
J'adore.
Et qui vient apporter aussi là une autre dimension humaine, comme on dit, mais aussi une autre forme de tragédie.
Bah oui, c'est très touchant le personnage de la fille, parce qu'elle, elle est complètement concrète. Elle est pas dans le. Bon, elle comprend ce que sa mère fait, mais enfin, elle a des besoins qui sont complètement, qu'on peut tout à fait comprendre.
Alors, il y a de la musique dans le film, qui est très corde, violoncelle. Et puis, il y a Moby Dick.
Ah ouais, il y a plein de trucs à clé, là. Moi, je me pose plein de questions.
Moi aussi, je voudrais comprendre Moby Dick.
Moby Dick, je crois que ça, il n'y a pas tellement d'explications à ça parce que j'ai entendu.
Si ce n'est qu'il le lit pas très vite, hein, parce que un quart d'heure après, il est toujours à la même page.
Mais est-ce qu'il a le temps de lire?
C'est ça.
Denis Podalydès l'aurait lu en entier en une après-midi. Ouais. Non, Moby Dick, il n'y a pas tellement d'explications à ça. Je crois que c'est pour Diastème. C'était une référence aussi à. Mais bon, je ne sais pas. À une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, une histoire historique.
Sur l'échafaud.
Oui, à quelqu'un qui, avant de monter sur l'échafaud, je sais plus qui c'était. C'était quelqu'un noble. De célèbre, hein, un personnage célèbre qui a juste corné sa page. il a marqué sa page avant d'y aller. Voilà. Et c'est beau.
Oui, c'est joli.
C'est une image un peu idéaliste. Voilà. Donc Moby Dick.
Oui, alors un manque de confiance totale dans la guillotine en se disant je vais revenir finir mon livre après. Ça ne fonctionnera pas.
Et puis c'est très monde d'hier aussi, quelque part. D'être encore. On a l'impression aussi qu'il y a une sorte, dans la classe politique, intellectuellement, d'une culture qui s'appauvrit. Et là, on est encore face à un homme qui lit le soir alors qu'il a passé la tête dans des dossiers, qui prend des décisions incroyables.
Mais il n'a pas de vie.
Son refuge, c'est quand même une forme de littérature. c'est la littérature. Oui, ça dit quelque chose aussi du bonhomme.
Il y a eu plein de grands personnages, enfin de personnages politiques qu'on connaît, de personnages qui étaient qui parlaient énormément de la littérature. Et Diastème est écrivain au départ. Il était journaliste, puis il a écrit plusieurs livres. 107 ans, c'est un écrivain. Donc c'est
et il avait déjà fait tourner Emma de Caunes, que l'on retrouve dans le film. Et je pense à ça en disant que Denis Podalydas n'a pas de vie. Il est en couple avec Emma de Caunes et il la délaisse totalement pour lire. Ouais, il attend juste qu'elle s'endorme pour pouvoir aller la rejoindre. C'est la solitude jusqu'au bout. On va parler avec Fabrice Lhomme tout à l'heure, qui est grand reporter au Monde et qui a participé donc à l'écriture du scénario du film de ce Monde d'hier, et surtout savoir si c'est un scénario possible pour lui. On va évoquer de la musique dans votre vie, Léa Drucker, celle que vous écoutiez en 87. Habillé comment à ce moment-là?
J'avais un look incertain. J'étais passée par un look New Wave d'abord.
Genre une choucroute?
Non, j'avais les cheveux, mais j'avais des espèces de chaussures un peu à crampons, habillée tout en noir, avant d'écouter Prince et George Michael.
D'accord.
J'ai commencé à me funkifier, on va dire. mais j'étais pas du tout, j'étais pas hyper dans le coup au niveau vestimentaire. C'était toujours un peu incertain.
Et cette musique évoque quoi pour vous?
C'est d'abord, alors moi j'adore George Michael. Et en plus, c'est le duo qu'il a fait avec Aretha Franklin, qui est une de mes idoles et qui était la sienne. Et j'adore voir des chanteurs qui chantent avec leurs icônes, leurs idoles.
J'imagine
que George
rêves.
Michael, il vit son rêve en faisant un duo avec Aretha Franklin.
On est en 87, Léa, et alors j'adore l'histoire. Généralement ici, ce sont des comédiens qui nous racontent comment ils ont fait leur premier cours de théâtre pour suivre une fille dont ils étaient amoureux. Et vous, c'est l'inverse. On n'a jamais cette histoire.
Non, c'est pareil. C'est pareil.
Non, mais c'est qu'on a rarement des filles qui s'inscrivent au théâtre parce
pour suivre un mec.
On a eu que des histoires dans le sens.
Parce que elles ne veulent pas l'avouer. Léa n'a plus rien à cacher.
Vous n'êtes peut-être pas une exception, mais en tout cas, moi, j'aime l'histoire. Vous vous inscrivez au théâtre parce qu'il y a un garçon qui vous plaît.
Et oui. Et en fait, moi, j'étais très dans le platonique. J'étais pas du tout à l'aise avec tout ça. Et du coup, il y avait ce garçon Guillaume qui s'était inscrit au club théâtre.
Vous balancez l'identité. Vous balancez l'identité.
J'ai dit Guillaume.
Ok, ça va. C'est Guillaume Canet.
Non. Et alors, il était dans les couloirs. Mais non, c'était pas du tout. C'était pas un comédien. Enfin, il est pas devenu comédien. Et Guillaume, je le suivais un peu dans les couloirs du collège. Et je me suis inscrite au club théâtre. Mais je m'en foutais complètement du théâtre. C'était vraiment pour Guillaume. Et c'est le théâtre qui m'a le plus plu. Et aussi, ça a pas
c'est
marché.
Génial.
On est devenus amis, mais il n'était pas très intéressé.
Mais vous n'avez jamais flirté ensemble?
Non, jamais, jamais, jamais.
Ah, c'est fou.
Même pas une petite scène à passer ensemble.
Non,
mais
on
pas une petite.
Non, rien.
Une
scène à passer ensemble.
Quoi d'autre?
Et je le raccompagnais chez lui tous les soirs.
Ah, une vraie dragueuse.
Voilà.
C'est magnifique.
J'étais
très amoureuse. Mais on est devenus très amis. On s'entendait super bien.
C'est génial. En 1989, vous écoutiez... Vous allez être contente parce qu'il y a un nouvel album qui arrive, des Red Hot. Les Red Hot 89, alors là, ça correspond à votre période un peu plus rock.
Alors moi, j'ai toujours été éclectique. Et alors 89, je passais mon bac et après, j'ai commencé à faire des cours de théâtre et notamment la Rue Blanche. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance. J'avais des amis qui étaient dans la musique, qui avaient des groupes. Et il y en a un qui avait fait faisait la première partie d'un groupe américain à l'Élysée-Montmartre. Un groupe qu'on connaissait pas. Et je me suis retrouvée au concert des Red Hot, peut-être le premier concert des Red Hot Chili Peppers.
Mais non, sans savoir.
Sans savoir ce que j'allais faire. Et j'ai vu des mecs débarquer en skateboard et c'était le groupe des Red Hot. Et c'était dément. Une reprise de Stevie. Wonder. On reste quand même dans le funk.
Dans le funk et dans la référence. Le saut Higher Ground pour cette reprise.
89-90, l'école de la Rue Blanche, vous venez de l'évoquer. Vous réussissez ce concours-là pour cette école dont on parle aussi beaucoup dans la formation de nombreux acteurs. Quel genre de scène vous aimiez passer? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est vous qui décidez d'interpréter tel personnage? Est-ce que c'est le prof qui vous regarde et qui voit en vous un potentiel pour ça ou autre chose?
Moi, j'ai découvert. On a joué des choses au départ assez contemporaines. On jouait du Yasmina Reza. C'était les profs qui imaginaient une mise en scène avec nous. Mais moi, j'ai un prof qui m'a assez vite distribué dans le vaudeville. Et j'ai découvert le vaudeville. Alors, je regardais au théâtre ce soir quand j'étais gamine avec ma grand-mère. C'était un rituel que j'aimais beaucoup. Et en jouant du Courteline, Feydeau, c'est là où je me suis le plus éclatée à la rue Blanche.
Est-ce que les femmes ont pas toujours la bonne place quand même dans ces pièces?
Non, mais personne. En général, ils sont très misanthropes. Les bons auteurs de vaudeville, Feydeau, et les hommes et les femmes, c'est tout le monde, hein. Après, j'ai joué la môme crevette, qui est un super personnage féminin, dans La Dame de chez Maxime, qui est insolente, plutôt une femme qui prenait de la liberté, tout ça. Donc, il aimait aussi ces femmes-là, un peu comme Toulouse-Lautrec, qui allait un peu dans les lieux plus interlopes. Voilà.
Feydeau, qui n'avait pas une vie très heureuse, d'ailleurs.
Les gens très marrants sont souvent assez...
tristes, c'est ça?
Je sais pas, vous en avez connu plein, mais...
Moi, je connais Marina, je connais Morgane.
Marina et Morgane sont drôles dans la vie.
Oui, c'est ça.
Les grands humoristes.
Il y a même des gens où elles sont beaucoup plus drôles dans la
vie. C'est quand on boit, c'est quand on boit après.
C'est quand on boit, oui.
Non, mais c'est vrai. Le regard sur le monde, la vie, quand c'est très très drôle, c'est souvent lié à quelque chose d'assez tragique aussi.
En 2016, vous écoutiez Julien Clerc. C'est vrai, je trouve aussi, oui.
Ouais, elle est bien cette chanson.
Vous avez été groupie
de Julien Clerc
ou d'un artiste?
J'ai été groupie de Prince.
Ah, d'accord.
Ah, ouais, vraiment groupie de Prince. Ouais, ouais. J'ai même couru derrière une voiture où il était.
C'est ce que j'allais dire, au point d'avoir tout fait pour le rencontrer.
Non, j'ai jamais tout fait pour le rencontrer parce que c'est Prince.
Courir après une voiture.
Parce que je l'ai croisé dans un endroit un jour et j'étais en état de sidération et je ne sais pas. Il y avait un costume bleu ciel avec des notes de musique. J'étais avec une copine,
le truc discret du mardi matin.
Il nous a fait un petit sourire et je sais plus. J'ai été tout d'un coup, eu un élan de joie, d'euphorie et j'ai couru, mais pas du tout pour l'attraper, pas du tout pour l'embêter. Non mais je veux dire, j'allais
comme
pas
si
la grimper
dans ma Pokéball.
un moment, c'était rue de Lappe, je me souviens, et j'ai couru derrière la voiture, enchantée.
Vous poursuivez les garçons au théâtre.
C'est ridicule.
Vous courez après Prince.
C'est magnifique. C'est ridicule. Ouais. Mais bon,
c'est une chasseuse.
Non, pas du tout. Non, mais c'est l'enthousiasme, ça.
Voilà, non, mais c'est bien, c'est le naturel, surtout.
On est en 2016 et on vous retrouve sur scène dans la pièce.
J'espère
que
je ne le ferai plus aujourd'hui parce que ce serait gênant.
Mais pourquoi, Léa?
Non, c'est sublime comme
l'enthousiasme, c'est super.
Ça changeait rien.
À cheval, ce serait chic.
Avec une lance.
Prince, c'est sûr que non.
C'est le tour.
Ou un grand filet à papillon.
C'est très mal barré pour Prince, oui.
En 2016, Léa, on vous retrouve sur scène dans la pièce Un amour qui ne finit pas d'André Roussin, mise en scène par Michel Faux, avec Pascal Arbillot, Michel Faux sur scène, et aussi Pierre Cassignard.
Oh, Pierre.
Cette pièce, c'est un très très bon souvenir de spectatrice.
Un des meilleurs souvenirs pour moi d'actrice, d'abord, de toujours travailler avec Michel Faux, pour moi, c'est la joie. Cette distribution-là, Pascal et Pierre,
qui nous a quittés
cette année, c'est des grands moments. C'est des moments de je pense que dans une carrière, c'est toujours une. D'abord, la pièce était super. Et puis là, ça a une note aussi particulière parce que ça m'évoque beaucoup Pierre Cassignard, qui a été un acteur que j'admirais beaucoup, avec qui j'ai fait 3 spectacles, qui était un homme aussi génial dans la vie, hein, un super camarade et quelqu'un qui nous manque cruellement.
Ah oui, c'est important d'évoquer la mémoire de Pierre Cassignard.
Bah oui, parce que c'est parmi les rencontres les plus importantes, parce que mine de rien, faire 3 spectacles avec ça crée une intimité. Ouais. C'est comme vivre avec quelqu'un. Hein, si on en fait 3, c'est qu'on s'entend bien aussi.
Nous recevons Fabrice Lhomme qui a collaboré donc à l'écriture de Ce monde d'hier. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Merci de revenir, si ma vue est bonne, à ce micro. Vous êtes grand reporter au Monde, auteur de nombreux livres politiques, dont le dernier sur Emmanuel Macron, Le traître et le néant, rien que ça, aux éditions Fayard. Vous avez participé. Quel a été votre rôle sur Le monde d'hier? Rendre crédibles les situations justement de président ou d'homme ou de femme président?
Oui, alors il a été double. Le notre rôle, puisque j'ai fait ça avec mon collègue oui. Gérard Davet, évidemment, mon complice.
Toujours.
Toujours
associés tous les deux, oui.
On a effectivement, je pense, apporté la crédibilité nécessaire à certaines scènes spécifiques qui se passent à l'Élysée, mais aussi en dehors, comment se comporte ou ne se comporte pas un président de la République, un garde du corps, les rapports entre les ministres, avec les services secrets, etc. Le secrétaire général, évidemment, qui est tout à fait central. Et puis, aussi, même sur l'élaboration de l'histoire, en fait, qu'on a développée avec Diastème, évidemment, de manière à ce que là encore, sur le fond de ce qui pouvait se dérouler, parce qu'il y a beaucoup d'aventures et de mésaventures dans ce film, que là encore, ça rencontre une forme de réalité, ou que ce soit en tout cas surtout crédible.
C'est réussi, c'est totalement réussi. Le point de départ, vous êtes beaucoup posé la question de savoir si c'était un homme ou une femme, présidente ou président ?
Non, on ne s'est pas spécialement posé la question. Je pense que, en fait, que ce soit Diastème, Gérard, moi et l'ensemble des gens qui ont collaboré à l'origine du projet, ça nous paraissait de toute façon assez évident de mettre en scène une femme, parce qu'il nous paraîtrait de toute façon assez évident qu'une femme soit présidente de la République. Et on fait, j'allais dire, qu'anticiper un phénomène qui est inéluctable, et tant mieux. Donc, c'est une sorte d'évidence.
Le phénomène, c'est que ce soit qu'une femme, un jour, soit présidente de la République, ou il y a d'abord les idées et ce qu'elle porte. Parce que ce soit un homme ou une femme, ce sont d'abord les idées normalement pour lesquelles on vote, non ?
Bien entendu, tout à fait, mais n'empêche que pour l'instant, les idées elles ont souvent été portées au pouvoir par des hommes, qu'il s'agisse bien sûr du poste de président qui n'a jamais été occupé par une femme, les postes de premier ministre ou de première ministre, il y en a qu'une seule. Donc et les postes régaliens, il a fallu beaucoup de temps avant que les femmes y accèdent, ce qui est aberrant, tout simplement aberrant. Donc
ce que l'on voit dans le film, ce qui est d'ailleurs le point de départ de l'intrigue, de la tragédie, du thriller, c'est une menace numérique ou un chantage venant de l'étranger pour déstabiliser une élection nationale.
Oui, absolument. Et là-dessus, j'allais dire, on est bien sûr dans la fiction, mais là, pour le coup, c'est
pas loin de la vérité.
Voilà, là, c'est même plus que c'est crédible, c'est que ça s'est déjà produit, ça se reproduira sans doute encore. La dernière fois en France, c'était l'élection présidentielle précédente en 2017. On se rappelle des fameux Macron Leaks, c'est-à-dire que tous les échanges e-mails de l'équipe de campagne de Macron qui ont été piratés, et on a su après que les soupçons s'étaient portés sur la Russie, à juste titre. Il est d'ailleurs beaucoup question aussi de la menace russe dans le film, comme quoi on était en avance malheureusement sur certaines réalités.
Ou au courant.
C'est encore possible, là, dans notre deux tours, par Clairement. Exemple, qu'on ait soit une vidéo, je pensais récemment à Benjamin Griveaux, de divulgation pornographique, si on dit ça maintenant.
De vidéo intime.
Pour le coup. D'un document attestant de, je sais pas, de valise, de malversation. C'est encore possible.
Ou de l'affaire McKinsey, qui semble être l'un des boulets du moment.
Voilà. Alors l'affaire McKinsey, elle repose au moins sur des faits qui sont, j'allais dire, d'intérêt public et qui sont avérés. La vraie crainte, c'est...
Oui, mais qui viennent déstabiliser à une semaine du premier tour.
On est d'accord. Mais la vraie crainte, c'est plutôt une manipulation qui peut reposer, par exemple, sur la diffusion de faux documents qui seraient mélangés avec des vrais. Ça, c'est la crainte principale. Et elle concerne tous les concurrents, et c'est une crainte qui n'est pas factice. Il y a une vraie menace.
Une vraie menace parce qu'ils ont tous, entre guillemets, des casseroles, c'est-à-dire que, mais comme la nature humaine fait que tout le monde n'a pas forcément les mains propres, ils se doivent de nettoyer leur passé, de contrôler leur com, de contrôler leurs ordinateurs, leurs connexions, de passer par des messageries cryptées pour éviter...
Alors, il faut prendre des mesures de précaution, évidemment, parce qu'il y a des éléments confidentiels dans une campagne électorale, c'est logique. Mais je ne dirais pas qu'ils ont tous des casseroles. Certains en ont, d'autres pas. D'ailleurs, dans le film Le Monde d'hier.
Comme on a tous des casseroles, vous et moi, ce que j'appelle des casseroles, c'est-à-dire des choses qui relèvent de l'intimité et qu'on n'a pas forcément envie que
bien sûr
on sache.
Voilà, bien sûr, c'est ça. Il y a des éléments que personne n'a envie de voir divulguer. Et c'est évident, donc il faut se protéger. Après, c'est ce que montre justement le film, c'est qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables parce qu'ils s'exposent ou parce qu'ils ont peut-être commis à un moment une malversation, une erreur, une faute, et ça peut leur revenir dans la figure.
Alors il y a autre chose qui est évidemment qui met toute l'attention dans le film, c'est l'extrême droite. C'est l'arrivée de l'extrême droite potentielle, possible, la montée dans les sondages, les informations, je sais bien qu'on dit plus les renseignements généraux, mais enfin bon, bref, ils ont des informations avant que tout arrive, en disant voilà, on sait que ça va arriver, on sait qu'ils sont là, on sait que l'extrême droite est au pouvoir, et puis il y a une phrase qui est dite dans le film, qui est de dire... Dès l'instant où tu as voulu éliminer des personnes, c'est le secrétaire général qui dit ça à la présidente de la République, dès l'instant où tu as voulu éliminer des personnes en dehors de nos frontières parce qu'elles représentaient un danger pour la démocratie ou pour la France, tu les as éliminés. Pourquoi ne pas faire la même chose à l'intérieur du pays?
Je pense que c'est un des éléments très forts du film, parce que a priori, on pourrait dire, mais enfin, dans une démocratie, on va pas, un président ou une présidente ne va pas ordonner de tuer des gens. Ça paraît être le bon sens, mais en réalité, si, ça se passe. Ça se passe. C'est exactement ce qu'on avait déjà montré avec mon collègue Gérard Davet dans notre livre « Un président ne devrait pas dire ça », lorsqu'on avait fait dire la vérité à François Hollande, c'est-à-dire qu'il reconnaissait avoir ordonné l'exécution de terroristes présumés à l'étranger. Donc ça veut dire que c'est le droit de vie et de mort. D'ailleurs, je fais une parenthèse, comme quoi tout est la période est propice. Le 1er avril, à Bobino, une pièce tirée d'un président ne devrait pas dire ça va être joué, donc pour la première fois
vendredi.
Et vendredi exactement, et ce thème là va être évoqué. Donc je pense que c'est un thème tout à fait fondamental, et je crois que c'est ce qui traverse le film de Diastème, et que Léa incarne vraiment on est d'accord, brillamment, évidemment. Mais parce que je pense qu'elle représente, c'est comme une allégorie, elle représente le pouvoir avec toute sa force et son potentiel, j'allais dire, destructeur, hein, de pouvoir mettre fin à des vies, et en même temps une fragilité, parce que ça reste des êtres humains.
Et mais quand on voit que Poutine, on le sait, régulièrement empoisonne des ennemis, ou les fait taire, ou les tue, ou les abat, peu importe, on peut se poser des questions aussi sur des personnes, des secrétaires généraux qui disparaissent, qui meurent à l'Elysée comme par hasard, ils se suicident, ou l'affaire Boulin, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en politique, en venir à tuer quelqu'un de gênant ou de menaçant, ça a toujours été présent dans les esprits de tout le monde, voire une réalité tue.
Oui, alors c'est présent dans les esprits, c'est vrai, mais heureusement c'est pas la règle, en tout cas pas dans un pays comme la France. Mais c'est vrai
que c'est la règle, je dis que ça peut arriver.
Ça peut arriver, et il y a des morts fameuses qui restent toujours un peu suspectes. François de Grossouvre du temps de Mitterrand, même Pierre Bérégovoy, dont le suicide est parfois encore contesté, etc. Donc, mais ça dit quoi? Ça dit aussi que le pouvoir, il y a une forme de violence. Et là encore une fois, je pense que le film de Diastème l'exprime bien, cette violence, même s'il est contenu. C'est pas un film, j'allais dire, racoleur, où on voit les gens se taper dessus, mais on voit ce qui et ce qui porte, la charge qu'ils portent sur leurs épaules.
Dernière question, Fabrice Somme, avant de vous remercier et de vous quitter. L'extrême droite au pouvoir en France, c'est possible un jour?
C'est tout à fait possible. Il n'y a qu'à voir les scores cumulés des candidats d'extrême droite pour le premier tour. Ça n'a jamais été aussi fort. Et malheureusement, on ne voit pas pourquoi ça baisserait à court, même à moyen terme.
Merci Fabrice Lhomme. Le film s'appelle Le Monde d'hier. Il est aujourd'hui au cinéma. Tanguy Pastureau.
Oui,
bonjour,
Tanguy.
De quoi vas-tu parler?
Alors, j'avais prévu une chronique sur les politiques, mais du coup, je vais pas la faire. À la place, je vais vous parler du village de Riaillé, en Loire-Atlantique, d'accord, que j'ai découvert en regardant le JT de 13h de TF1 hier.
Très bien. Léa Drucker est notre invitée jusqu'à 12h30. C'est l'heure originale avec Léa Drucker. Morgane Gagnon, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, enfin un homme autour de cette table, et notre invité Léa Drucker. On va continuer de parler du monde d'hier, ce film avec Léa Drucker, avec Denis Podalydès, avec Jacques Weber en candidat. Il est bien.
J'adore Jacques Weber.
Si on parle de l'acteur, si on parle du candidat, il est teubé, quoi.
Il est fragile.
Et Thierry Godard, qui n'a que quelques secondes de jeu, mais qui dégage un truc aussi qui fait peur. C'est lui le candidat d'extrême droite.
Oui, et pourtant Thierry Godard est l'homme le plus sympa de France, je tiens à le dire, vraiment.
Dans la vie, vous voulez
dans
dire.
Dans la vie. Oui. Et il interprète ça très très bien. Justement, ça rend le personnage très très inquiétant.
Oui, parce qu'il a ce même calme, cette même assurance.
Il est super.
Du quoi qu'il arrive, je vais gagner.
Il joue pas le méchant. De toute façon, le film n'est pas manichéen. Hein. C'était pas un film, on dit c'est plus complexe que ça, mais je trouve qu'il l'interprète vachement bien, ça.
3 jours pour changer le cours de l'histoire, ça pourrait s'appeler comme ça aussi, ce monde d'hier, c'est-à-dire qu'elle a décidé, cette présidente de la République, de se retirer de sa fonction pour des raisons personnelles, pour des raisons humaines, sentimentales, familiales, ça vous le découvrirez dans le film, mais la menace d'un chantage d'une vidéo, on avait le revenge porn
on a dit pas le revenge porn, disait la divulgation pornographique.
C'est ça?
Oui.
Je me souviens plus de l'expression.
C'est ça, enfin, bref. Pour pas dire que la victime
gentil, mais...
Du chantage avec la vidéo porno, voilà. En tout cas, bah, c'est le même genre de chantage, mais politique, en disant, il y a une vidéo extrêmement gênante, qui n'est pas pornographique, d'ailleurs, qui est une histoire d'argent, de valises et de marché à l'étranger, qui circule, totalement crédible dans le monde dans lequel on vit. On se dit, ouais, après tout, pourquoi pas. Il y a des personnes qui sont à la signature de contrats mirobolants et qui pourraient facilement céder à la tentation de toucher de l'argent.
Pour comme financer ça. Une campagne, c'est on ça. A déjà entendu des choses comme ça.
Exactement, tout ça arrive. Donc tout ça, ce qui est fou, c'est que tout est crédible. Tous les éléments sont crédibles dans le film. La manière dont ça s'enchevêtre et la manière dont ça devient un suspense, c'est là où on en arrive à la tragédie, au thriller, au suspense, en arrivant dans la fiction. Mais tout part de faits potentiellement réels.
Bah oui, c'est ça qui était, moi je trouvais passionnant à explorer en faisant ce film. Et puis aussi, d'être derrière la porte, d'être derrière cette petite porte, enfin, ou cette très grande porte avec des dorures, je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe derrière, dans cette intimité de l'Élysée là? Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. De quoi ils se parlent, ces personnages? Il y a quelque chose de très fascinant dans le langage politique, qui se mêle à un langage aussi intime, puisque ça parle aussi de ces relations que ces gens-là ont entre eux. Et je trouvais ça tout à fait fascinant dans le scénario, et d'ailleurs difficile à construire, parce que le langage politique est presque un langage à part entière quand tu maîtrises pas. Moi, je maîtrise pas tout ça, mais il a fallu l'assimiler.
Oui, quand on dit langage politique, on peut entendre aussi maquillage d'idées, ou voire mensonge, ou manière de dire des choses sans vouloir vraiment qu'elles soient comprises, ou pour procrastiner quelque chose en disant oui, bien sûr que je vais faire cette réforme, et puis allez, on verra plus tard, je vais pas m'en occuper maintenant. Mais le langage utilisé dans le film, et c'est ça que je trouve passionnant et tellement bien joué par vous et Denis Podalydès, quand il y a ces rencontres qui sont à la fois des rencontres humaines et des rencontres, j'ai envie de dire, cérébrales, de stratégie politique et de principes, car il a des principes. Et qu'en politique, on se demande jusqu'où vont la fidélité à ses propres principes.
Oui, ça on peut se le demander. C'est des questions, je trouve, très universelles aussi, ça, les compromis qu'on fait avec soi-même.
Oui, en dehors de
ça,
la politique.
Moi, des choses que je peux poser comme question personnelle aussi.
Mais quand la décision et quand vos principes impliquent 66 millions de personnes, voilà, là, ça devient pesant. Oui.
C'est là où ça devient très curieux et captivant, moi, justement, c'est ça, de les voir se débattre avec... Moi, j'ai toujours imaginé que ces personnages-là avaient des rêves. Je pense que quand on rentre en politique, on a une vocation. On a la vocation de vouloir changer les choses, de pouvoir, entre guillemets, transformer la vie des gens. Je pense qu'il y a un rêve de jeunesse qui est très puissant. Et puis après, il y a le réel, il y a la réalité des choses,
hein,
j'imagine.
Ouais.
Oui, moi je vois toujours
c'est ça.
Non,
mais c'est vrai.
La psychologie qu'il y a derrière tout ça. Et puis quand on se prend aussi les échecs, et puis sa propre responsabilité dans ce qui arrive
et
aussi.
Comment on
les gère ?
Qu'est-ce
qu'on a laissé derrière soi ?
C'est la même chose dans la vie, en fait. Quand on est adolescent et quand on grandit, qu'est-ce qu'on devient ? Comment on investit son travail ? Comment on crée une famille ?
Mais il a encore une fois la grosse différence, et c'est dit par le personnage de Nicolas.
Ça a des implications sur 67 millions de personnes.
Plusieurs fois, je crois, deux fois au moins, en tout cas dans le film, il dit « voilà ce que tu laisseras dans les livres d'histoire ». C'est-à-dire que c'est une décision qui, d'un coup, peut avoir un impact ad vitam aeternam. Voilà ce que tu laisseras dans les livres d'histoire.
Oui, parce que ça, c'est des questions que nous, on se pose peut-être pas. Qu'est-ce qu'on va laisser ?
Ouais. Rien.
Si moi, je me le pose par rapport aux enfants.
Évidemment. Ça, c'est la transmission. Mais
c'est pas
ce qui reste dans les livres d'histoire, tu laisses quoi, toi ?
Un petit F2, un petit F3, quoi. Un petit investissement immobilier, quoi. C'est la base.
Les questions idéologiques, on les a. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est très puissant dans la jeunesse. En tout cas, c'est quelque chose qu'on. C'est ça que je trouve très émouvant, c'est que quand on grandit, quand on vieillit, on essaie de se souvenir. Mais je pensais comme ça. Et comme on a pu se transformer ou pas d'ailleurs. Mais on fait des négociations avec soi-même. Donc en politique, ça doit être extrêmement puissant. Et puis là, évidemment, il y a des drames humains qui se jouent dans le film, des enjeux de vie ou de mort, des histoires de d'amitié. Enfin, comment dire, je pense que quand on arrive au pouvoir, on doit avoir beaucoup de monde autour de soi. Puis quand on arrive en fin de pouvoir, il n'y a plus grand monde. Et qui reste là et qui on va garder, de qui on va se séparer.
Et à l'inverse aussi, qui essaye de vous manipuler ou d'avoir un intérêt personnel ou pas. Et de l'intérêt personnel et l'intérêt de la France n'est pas toujours le même non plus.
Non, mais il y a l'intérêt de la France, mais il y a aussi les enjeux, encore une fois, les enjeux de vie personnelle qui font que, est-ce qu'on arrive à... parce qu'on peut pas lâcher. Enfin, j'imagine quand on est sur ce siège-là, on peut pas renoncer. On peut pas se dire, allez, je m'en fous, je vais régler. Mmh. Donc, c'est des personnages qui sont confrontés à ça. Et c'est ça qui, moi, me portait beaucoup pendant le film. C'était d'essayer d'y mettre du personnel dans un univers que je ne connais pas
et
vraiment.
Et ça change votre regard sur la politique?
Est-ce que ça change mon regard sur la politique? Bah, j'ai toujours trouvé, en regardant la télé, que la politique était une comédie humaine. Pas toujours drôle, hein, mais parfois drôle, mais pas toujours. Et que c'était des personnages qui, moi, m'intéressaient. Parce que quand on joue des certaines pièces de théâtre, si tu dois jouer une reine, alors tu vas essayer de le rapprocher le plus possible de notre monde contemporain pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que d'être une reine. Mm-hmm. On n'est plus dans une monarchie, mais vous voyez ce que je veux dire.
Mm-hmm. Après ce que nous a dit Marina, on en doute. En plus, vous appelez Elisabeth dans le film.
Ça, oui, parce que c'est une référence aussi au théâtre élisabéthain, à Shakespeare. Et il y a l'univers de Diastème qui vient du roman, qui vient de l'écriture.
Ça s'appelle Le Monde d'hier, c'est aujourd'hui au cinéma. Et tout de suite, voici Tanguy Passion.
Hier, en rentrant chez moi, j'ai mis le journal de 13h de TF1, appelé aussi JT Maudit. Il est dû être conçu sur un ancien cimetière indien. Jean-Pierre Pernaut est décédé. La dame qui a pris sa suite, Marie-Sophie Lacaro, est absente depuis 4 mois à cause d'une grave infection à l'œil. Hier, il y avait Julien Arnaud, donc j'ai prié pour lui. J'ai dit, mon Dieu, faites qu'il ne tombe pas sur Will Smith. Je lui ai aussi appelé un taxi pour éviter qu'il se fasse écraser en sortant de TF1. Et je lui ai fait livrer 300 laitues pour qu'il mange sainement. Leïla, cher ami, mon conseil, restez sur France 2. On peut y avoir une vie de foufou, se droguer. Laurent Delahousse saute à l'élastique sans élastique. Bon, ok, ses cheveux viennent se frotter à la colonne d'air, ça ralentit, mais quand même. Et tout le monde reste vivant. Alors que JT de TF1, on a l'impression que le premier qui boit une tisane non bio est entre la vie et la mort. Bref, j'ai mis TF1 vers 13h15, la partie magazine, celle qui est non anxiogène, avec des villages, des bignous, du purin. Parfois, il chope une dame qui clopine à genoux dans la rue, il dit c'est une danse locale. Elle répond non, gars, je suis bourré, apartisé, il n'y a rien à foutre ici. Et j'adore la vie des villages parce qu'on réalise que des clones de Jean Lassalle, il y en a des milliers. Hein, c'est comme les fourmis quand on soulève une pierre. Vous allez au club de danse country, le jeudi à 20h au gymnase, vous criez, les gars, je viens de voir passer un noir et un juif, chopez-les, et ils sortent avec des pelles à taupe. Oui, alors, je me moque de la campagne, mais je peux, j'en viens. J'ai passé ma jeunesse dans des petits bleds de Bretagne, 800 habitants, dont 14 ados. En 2 soirées, vous aviez flirté avec tous les gens de votre âge, après, il vous restait votre cousine, ou votre mamie, si elle avait Alzheimer, parce qu'on pouvait se faire passer pour le plombier. Ouais. C'était super. Si le ticket disait, ça existe, ça, les plombiers de 14 ans, vous répondiez, madame, ça s'appelle l'apprentissage, à quoi sert réellement d'avoir 80% d'une classe d'âge qui a le bac, hein. Bon, et ça passait. Mais on s'ennuyait. Il n'y avait pas Internet, pas Netflix, juste du lierre qu'on regardait pousser à la télé Daniel Bilalian en train de tirer la gueule. Bref, j'ai regardé le JT TF1 et ils ont une séquence super intitulée « Votre histoire ». Alors, c'est une sorte de jeu. On voit un journaliste avec une fléchette. Face à lui, une carte routière. C'est comme l'application Waze, mais en papier. Hein, et si elle vous parle, bah, il faut consulter un psychiatre. Et le journaliste doit se rendre là où atterrit la fléchette. Alors, il s'agit d'une carte régionale, pas un poster du monde. Parce qu'imaginez, allez, je lance. Ah, Mariupol. Non, ça compte pas. Je relance. Ah, Alep. Bon, les mecs auraient signé pour couvrir le concours régional de Tourte au Poireau. Ils se retrouveraient face à 900 Tchétchènes, faisant la même tête que le mélomane qui apprend le retour de la Starac. Donc, hier, la carte était celle des Pays de la Loire. Région dont les principales stars sont Jean-Marc Ayrault et le groupe Tragédie. Donc il a été envisagé à un moment de la raser. Et la fléchette est tombée sur Riaillé, un village. Voilà, pour vous situer, c'est entre Grand Auvernais et Vallon de l'Erdre. Ok. Alors je vous résume, la journaliste arrive à Riaillé, croise un pêcheur, puis un prof de guitare à la retraite en chaussettes claquettes. Au deuxième quart d'heure de Bamboléo, elle se jette tête la première sur la caisse de la guitare pour mettre fin à ses jours en s'étranglant entre deux cordes, tandis que le prof hurle « Tu vas me péter mon instrument, connasse !» Et là, j'ai mis pause, alors que Julien Arnaud s'apprêtait à lancer un sujet sur la sève de bouleau, parce que là, on est en plein milieu de la récolte annuelle. Ok, je me suis trop enthousiaste. Non, je regarde trop le JT de 13h, ça m'a brillé la tête. Maintenant, quand on me dit « Plus beau marché de France », j'ai une montée de désir. Jambon de pays, je peux plus me contenir. Bon, j'ai mis pause et je me suis dit, mais Tanguy Bichon, est-ce qu'être devant ce reportage sur Riaillé à 13h20 en semaine, avec une pasta box sauce roquefort sur les genoux, n'est pas le comble du glauque? C'était Steven Tanguy, le jeune en moi, qui parlait. Et là, André Tanguy, le vieux, s'est mis à crier, non, c'est battre les trous perdus, le bingo, les mouches, les ballots de foin. Et j'ai choisi d'écouter Steven Tanguy. Je me suis donc rendu sur Twitter, c'est à pas à troll, afin de voir quels étaient les hashtags en vogue pour faire une chronique un peu moderne. Mais seulement, le souci, c'est que j'ai plus les codes. Hashtag numéro 1, Will Smith. Bon, on en a assez parlé. Ouais. Il a giflé Chris Rock, qui avait déjà été giflé symboliquement par un tas d'humoristes français ayant traduit 2-3 ses sketchs. Hashtag 2, McKinsey, l'affaire McKinsey, j'en ai déjà parlé. Macron a explosé son cochon pour se payer des post-it à 1 million de la part du cabinet de conseil de Ricain Feignant. Hashtag Rothschild Gate, hein, parce que Macron est soupçonné d'avoir placé une part de ses rémunérations de banquier dans des paradis fiscaux. Voilà. Alors, après, les soupçons, c'est toujours en fonction de ce qu'on a. Hein, Philippe Poutou, s'il est soupçonné d'avoir utilisé un ticket resto 2020 en 2021, ce sera le maximum. Ensuite, en hashtag, il y avait Zemmour, Minecraft, Dijon. En fait, Twitter, ça ressemble à une sangria. Hein, là-dedans, on fout un peu tout ce qu'on a et à la fin, ça saoule vite. Et là, André Tanguy est revenu dans ma tête et m'a dit, pense à Riaillé, ses chants, son étang, sa tranquillité. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça la vie. C'est couper Twitter pour se concentrer sur l'essentiel, le bruit des motoculteurs, Karine Le Marchand en short qui vient caster des paysans en manque de sexe, ou d'affection, ou les deux. C'est admirer un coucher de soleil au-dessus des effluves de pesticides. C'est beau la France. Longue vie à Julien Arnaud. Je t'aime. Et tous à Riaillé.
Merci.
Il est complètement dingue.
On apprend des choses.
On apprend plein de choses. Le monde d'hier, c'est aujourd'hui au cinéma et dans la culture. Leïla, quoi d'autre ?
Eh bien, il y a du neuf dans le monde de la production ciné. Une nouvelle structure vient de débarquer dans cet univers. Mais de qui s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? C'est pas vraiment une plateforme. Si je vous donne quelques indices, je vais vous parler de la Vendée.
Une bibliothèque.
Ah, c'est le Puy du Fou qui va faire une... Oui, oui. Ils vont produire quelque chose, je crois.
Absolument. Oui. Le Parc Vendéen annonce le lancement de Puy du Fou Film, voilà. Une nouvelle entité de production audiovisuelle. Alors attendez, attendez, il va y avoir un grand film épique qui va être produit ainsi.
Sur Marine Le Pen.
Qui sera produit en partenariat avec Canal+. Et au casting, on aura Hugo Becker, Jean-Hugues Anglade ou encore Rod Parado. En tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé.
Ce sera 900 aigles. Hein.
Et 900 aigles, absolument. Ça s'appellera Vaincre ou Mourir. C'est en cours de tournage et ça parlera de l'histoire de François Athanase Charette, dit Charette, un personnage important dans la culture vendéenne. Vraisemblablement, ne me demandez pas qui c'est, j'ai pas cherché.
Qui c'est ?
Je ne sais pas. Okay. Voilà, en tout cas, question Léa. Est-ce que lorsque
vous... Est-ce que vous êtes un peu du fou déjà ?
Non. Vous êtes plutôt Walibi.
Walibi, j'en suis baba. J'ai appris d'ailleurs qui a fait chanter ça.
Marca.
Et ouais.
C'est Marca le, le papa d'Angèle et Roméo Elvis qui avait fait le jingle Walibi, j'en suis baba.
Ouais. Et j'adore ce jingle. Comme j'ai chanté, comme je l'ai chanté ici, j'ai le droit à un petit message. Pardon, Léa, on revient à cette histoire de Puy du Fou. Question, non pas par rapport au Puy du Fou, mais par rapport à la production des projets. Est-ce que vous regardez de façon hyper précise qui d'où vient l'argent en fait? Sur les projets.
Ah non, pas forcément. Ouais. Non, honnêtement, non,
mais c'est une question que je.
On vous paye, vous prenez le blé, vous êtes content, vous savez pas si c'est de l'argent propre,
non,
sale.
Non, mais aussi cynique que ça. Non, honnêtement, si je. J'ai pas été, en tout cas, dans des situations où je me dis, merde, j'ai fait ça.
Oui,
ça
non,
j'ai toujours travaillé avec des gens qui.
Non,
qui
on peut on peut se poser la question sur les GAFA. C'est vrai que les GAFA sont montrés comme le diable, qui paye pas ses impôts, et ils ont plein de défauts, et ils produisent énormément, et beaucoup d'artistes cèdent à la tentation.
Oui. C'est-à-dire, alors, ils produisent énormément.
Est-ce que vous feriez quelque chose sur Amazon, par
exemple? Est-ce que politiquement, on dit, Amazon exploite ses livreurs, ne paye pas d'impôts en France, donc je ne travaillerai pas pour Amazon?
Je me suis pas retrouvée encore dans cette situation. Ouais. Mais c'est vrai que ces questions où on se dit qu'est-ce que j'achète, quand t'es pas. Bah, moi, c'est vrai que c'est pas des. Comment dire? Je suis pas une experte en économie, mais c'est vrai que c'est des questions morales, en effet. Si j'achète ça, ça vient d'où? C'est des bonnes questions à se poser.
Alors après,
je me suis pas retrouvée dans cette situation.
Sur Amazon, et c'est un homme de gauche.
Gaspard.
Je me suis pas retrouvée dans cette situation à me dire oh là là, mais ça vient de là, il faut pas que j'y aille, parce que ça, je me suis pas retrouvée dans ce cas de figure. Donc c'est facile après de dire ah oui, moi je suis très noble.
Il arrive que des journalistes ou des animateurs quittent une chaîne ne reconnaissant pas une légitimité à son actionnaire principal ou la direction politique prise par une rédaction. Ça s'appelle d'ailleurs le
déontologie. On a une déontologie, on a un code de journaliste où on peut s'opposer et refuser de travailler si la ligne éditoriale est forcée aussi. C'est ça aussi.
Oui, mais les années qui ont précédé, on s'est aussi acheté beaucoup de fringues qui venaient d'endroits qui n'étaient pas très. Où les conditions de travail n'étaient absolument pas saines.
À commencer par les portables dont on se sert.
C'est des questions qu'on peut se poser à plein d'endroits.
Surtout, ça rejoint le propos propos du film sur la notion de d'éthique, quoi, de morale, jusqu'où on est prêt à aller, consciemment ou pas consciemment, en fait.
Oui. Alors moi, j'ai acheté le portable du Puy du Fou, il est en bois.
Hein. C'est un boulier, c'est un boulier.
Autre question, justement, on va parler d'Amazon, Amazon Prime, qui va pouvoir diffuser plus de 4000 nouveaux films, dont 180 qui ont été récompensés aux Oscars, et à peu près 17 000 épisodes de séries, d'après vous, grâce à quoi ?
J'ai lu ça.
Ils ont acheté un catalogue.
AB Production.
Non, c'est quoi mythique. Le lion
Un studio mythique.
C'est celui avec le lion qui hurle.
La Warner.
MGM. Absolument, Amazon Prime a racheté le catalogue MGM et met son catalogue en ligne.
Le catalogue avec le lion qui hurle.
Non mais c'est bien, le lion est mythique. Mais pas
le catalogue avec celle qui est en toge et qui tient, le flambeau, non.
C'est ça.
J'ai pas les noms. Mythique, c'est mythique. Et ils ont déboursé quand même près de 9 milliards de dollars pour avoir... C'est ça, c'est un géant de commerce. Donc
1000 épisodes
pour
aussi. Quand
eux, non, mais pour eux, c'est rien, surtout 9 milliards.
Oui. Ah oui, d'accord.
Tu trouves que c'est pas grand chose.
9 milliards pour Amazon, je pense que c'est pas grand chose pour eux.
Oui, c'est vrai, t'as raison. On dit comme ça, tout de suite, ça fait. Je trouve ça colossal, mais en effet, on joue pas dans la même cour. Est-ce que vous consommez.
Combien de milliards situez où
Que feriez-vous avec
combien vous mettez sur la table Est-ce que vous regardez beaucoup les plateformes? Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Est-ce qu'il y a une série qui vous tient en haleine? Est-ce qu'il y a un film, un spectacle d'humoriste aussi? Parce qu'on peut trouver absolument de tout.
Alors. En ce moment, parce qu'en ce moment, je vais beaucoup au cinéma parce que j'ai retrouvé du temps. Donc, je vais voir beaucoup de films.
D'accord.
Donc, je vais au cinéma.
Alors, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? C'est de la prescription.
Ah, mais j'ai vu
conseils.
Des trucs formidables. J'ai vu Petite Nature de Samuel Tiss. Ouais. J'ai vu À plein temps avec Laure Calamy d'Éric Gravel que j'ai trouvé formidable. J'ai vu le film de Bouly Lanners, L'ombre d'un mensonge.
Est-ce qu'une actrice qui va au cinéma regarde un film ou analyse aussi des acteurs, des actrices, le jeu, la réalisation et observe comment c'est fait?
Je regarde le film et je me laisse impressionner. Là, ce que j'ai vu m'a vraiment impressionné. C'est-à-dire que Laure Calamy dans À plein temps, j'ai adoré la regarder pendant. Film est éprouvant. C'est très anxiogène. Enfin, c'est un film qui m'a.
Mais donc vous regardez le jeu aussi.
Bah oui, parce que quand bien, c'est hyper inspirant. Tu te dis pourquoi. Enfin, mais je suis pas dans une analyse technique quand je regarde les choses. Je me laisse prendre. Hein. Je me laisse émouvoir. Je ris si c'est drôle. Mais c'est. J'aime être spectatrice. Hein. J'ai pas du tout envie d'y aller avec une loupe. Ouais. Mais si je commence à regarder le jeu de trop, ça veut dire que je me fais moins embarquer par le
film.
En fait, c'est un tout quand c'est un bon film.
Le 15 juin prochain au cinéma, Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux avec Alain Chabat. Vous êtes aux côtés d'Alain, que faites-vous dans le film?
Je joue la femme d'Alain.
Direct, ok, d'accord. Marie, c'est ça?
On est un couple. Il y a aussi le couple Benoît Magimel et Anaïs de Moustier. Et ça s'appelle Incroyable mais vrai. Et c'est sur le temps. C'est sur le rapport qu'on a au temps qui passe, au vieillissement.
J'allais dire, c'est sur une histoire de trappe découverte dans
un
pavillon.
Oui, c'est un film un peu. Il y a quelque chose d'assez fantastique
dans
le film, mais qui raconte un truc très profond, qui est le rapport qu'on a avec le temps qui passe et le vieillissement.
Couleur de l'incendie, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre que nous avions reçu ici, on en avait parlé. Clovis Cornillac, Benoît Poulvorne, qui sera notre invité d'ailleurs avec Mélanie Douté pour Inexorable. Demain, si ma vue est bonne.
Demain.
Là, vous jouez quel personnage dans Couleur de l'incendie?
Je joue le personnage principal et ça, c'est un très beau cadeau que m'a fait Clovis Cornillac parce que c'est une fresque romanesque. Qu'on a déjà dans le livre. Donc je joue Madeleine et qui est un personnage qui traverse aussi un peu le temps puisque ça commence dans les années ça commence en 1900, ça va jusqu'en 1930. Enfin en tout cas c'est un film en costume. Alors excusez-moi, je suis complètement à l'ouest.
Non,
je suis avec les dates, je suis mauvaise. Et qui raconte le parcours d'une femme dont on abuse d'une certaine manière, dans un monde d'hommes dont on n'abuse pas physiquement, qui se fait spolier. Ouais. Et c'est l'histoire aussi de la rédemption de cette femme et de son combat pour trouver une autonomie et une forme de liberté. Mais je peux pas. Bon. Il y a plein de gens pour lire le livre.
Depuis le début de l'émission, vous évoquez beaucoup et vous parlez beaucoup de l'écriture aussi et de l'histoire que raconte tel ou tel film. Est-ce que d'écrire, vous.
Moi, écrire
un film, ça vous.
J'aimerais bien.
participer à l'écriture d'un film déjà, parce que je trouve
pour
ça.
Pour être rassuré.
Non, parce que non, pas pour être rassuré, non, parce que je trouve ça passionnant. J'aimerais, j'essaye d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose que j'arrive à faire seule.
Donc vous écrivez en ce moment.
Je participe à l'écriture d'un projet, mais on en est vraiment au tout début, et c'est vrai que je me bats contre une rigueur d'écriture que je n'ai pas, moi, par exemple. C'est-à-dire que mon métier faisant que je pars tourner, je pars jouer au théâtre, c'est tout le temps en mouvement, d'être assis dans une pièce, c'est vraiment un métier, quoi, de concentrer. Donc j'essaye d'apprendre petit à petit cette rigueur pour pouvoir...
Plutôt comédie ou tragédie?
Plutôt drame noir, mais avec quelque chose de... Moi, j'aime bien les films, même les films noirs où il y a de l'humour quand même. Même si le film n'est pas drôle.
J'entends,
vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime... Voilà, c'est pas une comédie, non.
Le monde d'hier, c'est pas non plus une comédie, mais c'est un thriller, une tragédie. C'est aujourd'hui au cinéma avec Léa Drucker. Des excuses à présenter, Morgane
Cadignan. Oui, désolé pour Daniel Morin, je l'ai eu à la pause. Il apparaît que son épilation du maillot a très très mal tourné. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est dégueu.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de boulot.
Ah, c'est le monde d'hier dans son slope et on le reverra pas avant la fin de la semaine. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui m'ont appelé pour que je me présente réellement aux prochaines élections. Alors, c'est vrai que ça me tente parce que j'adore écraser la populace et qu'en plus je suis ascendant Capricorne. Juste, j'ai une demande, je vais diriger le pays avec mes deux ministres depuis les Antilles. Je viens d'ouvrir un ministère de l'Acra parce que Marina tourne en rond. Le parti des morues pimentées, tous aux urnes.
Mais...
Et désolé pour tous les hommes de la planète après qui Léa Drucker n'a pas couru. Elle l'a dit ce matin, elle a pris sa retraite, fini les 100 mètres en 9 secondes dans les rues louches de Bastille. Je sais, c'est triste. En revanche, Leïla et Marina vous filent rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche. Elles seront à cheval. Attention, c'est pas des Amazones à 9 milliards, mais elles sont rapides.
Merci Morgane, merci beaucoup Léa Drucker.
Merci à vous.
Bravo.
Merci.
Le monde d'hier au cinéma aujourd'hui, et en effet demain, Benoît Poulvorde avec Mélanie Douté seront nos invités. Passez une très bonne journée sur Inter. Philippe Bertrand, continue de se balader.
Oui, bonjour Nadine. Bonjour les amis, nous allons toujours dans le Maine-et-Loire et nous allons aussi dans le Gard. Dans le Maine-et-Loire, à la maison de Julien Gracq.
Ah oui.
Et puis dans le Gard, on va vous parler à Nîmes ou à côté. D'accord. Je ne sais plus où est précisément. C'est une colle ça. C'est une colle. Je vais retrouver le nom.
Oui, j'ai pas peur.
L'adresse.
J'ai pas peur. Ok. À tout de suite.
À tout de suite.